Cuisine équipée. Un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième, et je l'ai quand, ma cuisine? Chez Socook, c'est simple. En un clic, je choisis mon jour et mon heure sur socook.com. Et hop, en magasin, j'ai tout en un rendez-vous. Mon plan, mes vues 3D et mon devis détaillé. Et ça, c'est so simple. Socook. Cuisine équipée. Plus de 140 magasins en France.
Caroline Ostermann, un petit mot de météo.
Oui, une vigilance orange pour les orages émises sur la Haute-Corse. Ce temps orageux concerne également Rhône-Alpes et la Provence-Côte d'Azur. Et partout ailleurs, le temps est estival. Avec des températures de saison, nous aurons 26 à Paris et 29 à Bordeaux.
Caroline Ostermann, on vous retrouvera à 8h15 après le journal. Merci d'écouter France Inter. Il est 8h. Hélène Roussel pour le journal, bonjour.
Bonjour. La palette des couleurs pour ce 14 juillet. Bleu, blanc, rouge pour le défilé. Jaune avec les gilets infiltrés et arrêtés sur les Champs-Élysées. Vert avec les supporters des Fennecs. La joie hier soir tard après la qualification de l'Algérie en finale de la CAN. Ça se termine mal à Paris, Marseille et Lyon. 282 interpellations. On reviendra dans ce journal sur cette fête nationale plus que contrastée hier. Emmanuel Macron en Serbie aujourd'hui. L'Union européenne peut-elle encore s'élargir? On verra ça avec votre invité tout à l'heure, Frédéric Mettezo.
Oui, Hélène, la députée européenne En Marche, Nathalie Loiseau, pour le grand entretien de la matinale, a-t-elle trop critiqué ses alliés européens? Climat, commerce, défense, quelles sont les priorités de l'Union européenne? Vos questions, appelez-nous au 01 45 24 7000, le standard est ouvert. Vos questions également sur franceinter.fr.
Dans le reste de l'actualité, la réouverture de la prison de la Santé et de son quartier pour détenus radicalisés. Un duel pour l'histoire sur le gazon de Wimbledon, 5-7 en 5 heures, Federer Djokovic, victoire du Serbe, mais la légende écrite à deux. Et puis le nager coulé quand les sangliers nous font la leçon de natation. C'est à la fin du journal.
France Inter.
Mais on commence avec un cri d'alerte. 76 féminicides depuis le début de l'année. Les associations veulent de l'oseille, pas un Grenelle. Un Grenelle sur les violences faites aux femmes annoncé pour septembre. Trop peu et trop tard pour les militantes qui réclament 1 milliard d'euros. Habillées en Marianne pour le 14 juillet hier, elles étaient sous les fenêtres du ministre de l'économie. Parmi elles, Fatima Benomar, cofondatrice du collectif Les Effrontés, au micro de Laura Lavenne.
Nous, on va faire en sorte qu'on ne noie pas le débat. On nous dit, on va faire un Grenelle, on va discuter, on repousse au calende grec. Il faut savoir que nous, on le ressent dans notre chair, dans notre militantisme de terrain quotidien, le chiffre d'une femme qui tombe tous les 2 jours. Donc, combien d'autres femmes seront tuées d'ici novembre? Très franchement, les associations féministes, elles présentent chaque année leurs revendications, on les connaît, alors qu'ils commencent déjà, là, avant l'été, à prendre les mesures d'urgence. Nous, en tant qu'association, on en est limite à ouvrir des fichiers informels avec des copines qui ont des canapés. Donc des places d'hébergement d'urgence, des vraies formations pour remonter les bretelles, je dirais presque aux personnes dans les commissariats et les gendarmeries, pour qu'il y ait des consignes claires, pour prendre cette femme un peu à côté, pour essayer de la faire parler, pour voir s'il n'y a pas des démarches à faire. Il faut la volonté politique d'agir là déjà tout de suite. Tout ça demande beaucoup d'énergie et demande des moyens.
Trop de travail, trop de victimes et pas assez d'aide des pouvoirs publics. Les associations féministes sont en burn-out. Certaines baissent le rideau et les bras avec. Paye ton burn-out militant. Le mot-clé d'ailleurs s'est répandu ces derniers temps à la vitesse de l'éclair sur les réseaux.
8h03, c'est France Inter, le journal d'Hélène Roussel. Le 14 juillet, après le défilé sur les Champs-Élysées, la tradition du feu d'artifice en soirée.
Partout en France hier et au pied de la Tour Eiffel, à Paris, on est venu en famille, entre amis, des touristes aussi dans la foule.
Waouh, waouh, mais waouh, exactement, c'était somptueux.
C'est super, c'était très coloré. Ben, à la fin, il y en avait énormément, enfin, c'était...
On se demande quand ça s'arrête, en effet, ouais.
Je m'attendais pas du tout à ça.
C'était grand. On était vraiment pris, en fait, par le spectacle visuel et aussi auditif par la musique.
Ah. Ça monte crescendo, tout le temps. Toutes les années, ça monte et on... c'est plus beau, on va dire. Donc c'est super.
C'est toujours aussi impressionnant et c'est vrai que c'est toujours aussi beau.
Très joli, très très beau. On est venu spécialement plus de la Vienne pour le voir. Là, on repart dans le nord, donc on s'est arrêté spécialement pour venir voir le feu d'artifice qu'on n'avait jamais vu.
Ah non, on vient du PEC, on vient carrément du 78, nous.
Ah, vous faites le déplacement exprès, en
fait. Exactement, tout à fait.
Et ça vaut le coup.
Ah. À Bordeaux, en revanche, le spectacle n'a pas fait long feu. La barge pyrotechnique d'où sont tirées les fusées d'artifice a pris feu en plein milieu de la Garonne. Pas de blessés, mais un spectacle interrompu au bout d'un quart d'heure. Deux salles, deux ambiances. À l'heure du feu d'artifice, l'Algérie se qualifie pour la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est du foot. 2-1 face au Nigeria. Voilà donc les Fennecs en finale vendredi contre le Sénégal. Pour la première fois depuis 29 ans, l'Algérie a une chance de remporter un titre de champion d'Afrique. De quoi semer un vent de folie. Drapeau de l'Algérie sur les toits des voitures ou sur les épaules, pétards et fumigènes. Ils étaient des milliers à exulter à coups de klaxon hier soir à Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Marseille ou encore ici à Paris.
C'était incroyable, franchement, là, surtout la manière dont on a marqué à la fin. C'était la dernière minute du temps additionnel, donc c'était parfait.
Vous vous rendez compte, la dernière minute, c'est incroyable.
Je suis heureuse.
C'est indescriptible ce qu'on peut ressentir.
On est content, c'est la joie, c'est super.
Très heureuse, fière. Fière de mon pays.
Bien sûr qu'on va faire la fête, c'est sûr.
Bah non, c'est là, c'est la fête là. Regardez la France, ils ont fait un feu d'artifice pour nous.
Dès que les Algériens gagnent, on fête, on est tous fiers d'eux. Et on est fiers d'être Algériens encore plus.
Juste s'amuser avec les gens, un peu de musique, un peu de tout ça, et puis voilà.
Parce que la France a pu ressentir pour la Coupe du Monde, on le ressent aujourd'hui.
On est super fiers de notre équipe, les Fennecs, on a tout déchiré et on va gagner la finale contre le Sénégal.
Voilà, ça part bon enfant, mais ça se termine plutôt mal. Bilan de la soirée, un peu partout, Paris, Marseille ou encore à Lyon avec Mathilde Lemaire.
C'est le plus souvent vers 1h30 du matin que quelques supporters se sont livrés à des dégradations, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Il y a ainsi eu un jeu de chat et de la souris entre jeunes énervés et policiers jusqu'aux premières lueurs du jour à Marseille. Les casseurs repoussés du Vieux-Port dont l'accès avait été interdit ont concentré leur action notamment autour de la porte d'Aix. Plusieurs abribus y sont cassés. À Avignon, une barricade en feu. Même spectacle dans le Rhône où on a dénombré 150 interventions, des face-à-face entre jeunes et policiers, des voitures incendiées à Lyon, Vaux-en-Velin, Vénissieux, Bron et Villeurbanne. À Montpellier, où la fête des supporters avait tourné au drame jeudi avec la mort d'une mère de famille fauchée par un chauffard, l'avenue d'Heidelberg, lieu de l'accident, a été animée mais sans débordement. Dans la capitale, hier soir, sur le haut des Champs-Élysées, quelques tensions avec des jets de bouteilles sur les forces de l'ordre là aussi. Les CRS ont dispersé la foule avec des gaz lacrymogènes. On voyait sur les champs à l'aube des trottinettes et des poubelles brûlées.
Les incidents après la victoire de l'Algérie, le ministère de l'Intérieur vient de rendre son bilan définitif. 282 interpellations dans toutes la France hier soir. Décidément, ce fut un 14 juillet tout en contraste car tout avait commencé le matin avec les cérémonies sur les Champs-Élysées et déjà des incidents avec des personnes se revendiquant du mouvement des Gilets jaunes repoussé manu militari. Plus de 170 personnes arrêtées, parmi elles Jérôme Rodriguez, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, interpellé en marge du défilé, relâché dans l'après-midi, tout comme deux autres leaders, d'ailleurs Maxime Nicole et Éric Drouet. L'avocat de Jérôme Rodriguez ne décolère pas, c'est selon lui une dérive inquiétante. Ari Halimi répond à Simon Cardona.
Aujourd'hui en France, on en est à interpeller des personnes parce qu'ils sont des opposants politiques en raison de cette qualité. C'est très préoccupant, ce d'autant plus qu'il y a eu une ou deux autres interpellations de figures gilets jaunes pratiquement simultanément. Cette simultanéité implique qu'il y ait eu des instructions. On est un peu d'ailleurs dans la même situation que la Russie il y a peu de temps, que l'on critiquait si vertement, avec des opposants politiques interpellés dans le cadre de manifestations. On ne se rend pas compte des caps qui sont franchis progressivement par le gouvernement, et pourtant il faudrait véritablement qu'il y ait une prise de conscience dans l'opinion publique, une prise de conscience consistant à considérer qu'enfin, malheureusement, quand on en est à arrêter des opposants politiques uniquement parce que ce sont des opposants politiques, eh bien on n'est plus véritablement dans un état de droit tel qu'on l'a connu.
Interpellation illégale donc pour Maître Halimi, interpellation préventive et assumée, répond la police de son côté. David Michaud, secrétaire national CRS UNSA Police.
Les interpellations étaient faites dans le cadre de l'arrêté délivré par le préfet pour éviter justement toute perturbation et les appels aux réseaux sociaux en fait ont déclenché les 172 qui étaient au total. On avait de toute façon les gilets jaunes, on avait des gens qui étaient avec eux, hein, qui ne se sont pas gênés d'insulter le président de la République ou toutes les personnes, mais on avait aussi des black box qui dès lors où ils ont repéré sur les réseaux sociaux qu'il y avait un rassemblement de gilets jaunes sur les Champs-Élysées pour venir perturber le défilé du 14 juillet, ont fait en sorte de venir et de se joindre au groupe et faire en sorte qu'ensuite il y ait des débordements. Puisqu'on n'était plus du tout sur des gilets jaunes. On a des gilets jaunes radicalisés qui sont mêlés aux black box, mais on avait aussi des black box qui étaient bien présents.
David Michaud de l'UNSA Police répondait à Nicolas Théillard.
8h08, à quoi ressemble le quartier des radicalisés à la prison de la Santé à Paris?
6 mois après la réouverture de cette prison entièrement rénovée, une quinzaine de cellules accueillent donc des détenus radicalisés pour certains terroristes islamistes. On appelle ça le QPR, le quartier de prise en charge de la radicalisation. Il y en a 2 autres en France, mais c'est donc le tout premier à Paris et nous vous proposons ce matin une visite peu ordinaire avec Sophie Parmentier.
Bruno Clément Petremann, nouveau directeur de la prison de la Santé, nous emmène derrière une lourde grille de fer. Dans ce quartier de prise en charge de la radicalisation, 4 détenus depuis quelques jours, sécurité maximale, gilet pare-lames pour les surveillants et porte de cellule avec des trappes pour le menottage.
Lorsque nous avons un détenu qui présente un potentiel de dangerosité assez fort, ça nous permet de lui demander de passer ses mains et de le menotter avant qu'il sorte de la cellule pour tout mouvement. Alors, c'est quelque chose ici qu'on utilisera avec parcimonie.
Ici, les détenus ont une cellule standard, mais une cour de promenade isolée pour éviter le prosélytisme. Des éducateurs, des psychologues, des imams et islamologues vont tenter de les détourner de la violence. C'est un défi pour cette jeune surveillante.
Le côté radicalisé, ça a vraiment attiré la curiosité chez moi, en fait. On se questionne aussi sur ce phénomène violent, le pourquoi. Pourquoi ils en sont arrivés là et est-ce qu'il y a une possibilité de les faire changer en fait aussi?
Une conseillère d'insertion et de probation affirme que les revenants de Syrie semblent avoir souvent davantage renoncé à la violence que les velléitaires qui n'ont jamais réussi à rejoindre le califat de Daesh.
Un reportage de Sophie Parmentier. Ça chauffe à Hong Kong. 5 semaines que ça dure. Les manifestants protestent toujours contre le gouvernement local soutenu par Pékin. Hier soir, les affrontements avec la police ont été particulièrement violent. Scène de chaos dans un centre commercial, une dizaine d'officiers blessés et plus de 40 personnes interpellées. Les Chinois qui vont réduire la voilure sous pression des sanctions américaines, le géant des télécoms Huawei serait sur le point de supprimer des centaines d'emplois aux États-Unis, selon le Wall Street Journal. Dans ce contexte de tension commerciale avec Washington, Pékin affiche une croissance économique au ralenti, plus 6%. Pour la Chine, c'est faible, c'est même du jamais vu en 27 ans. En bref, encore une sortie tout en finesse de Donald Trump, encore une. Il a invité des femmes parlementaires démocrates à retourner d'où elles venaient. Il faisait vraisemblablement référence à de jeunes élus du Congrès comme Alexandria Ocasio-Cortez de New York. De quoi s'attirer encore de vives critiques, les démocrates l'ont qualifié de raciste et de xénophobe.
Emmanuel Macron en Serbie aujourd'hui.
Un pays point d'appui essentiel dans cette région des Balkans, selon le président de la République. Il va être question bien sûr de l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne, aujourd'hui au point mort. Sans parler, Élise Delève, d'une route bourrée d'obstacles.
Les obstacles sont tout d'abord européens. Emmanuel Macron a insisté à plusieurs reprises, pas d'élargissement tant que l'Union européenne ne s'est pas réformée. Le processus d'adhésion est hypocrite et épuisant, lâche-t-on à l'Élysée. Parallèlement, la Serbie doit elle aussi se réformer. Des progrès importants doivent être réalisés dans le domaine de l'état de droit, insiste la France, l'indépendance de la justice, la question du pluralisme des médias, la lutte contre la corruption et une véritable reconnaissance de l'opposition politique. Tous ces points seront abordés par Emmanuel Macron avec son homologue Aleksandar Vučić dans un langage de franchise et de vérité, assure l'Élysée. Le dernier obstacle qui semble actuellement insurmontable, c'est la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo, préalable à tout rapprochement européen. Aujourd'hui, le dialogue est au point mort. La perspective européenne n'est pas remise en cause, mais elle s'éloigne. On parle de 2025, trop long pour les Serbes qui se tournent de plus en plus vers la Russie.
D'ailleurs, soutenue par Moscou, la Serbie ne reconnaît toujours pas l'indépendance de son ancienne province du Kosovo. Hier, plusieurs tombes d'un cimetière serbe orthodoxe ont été vandalisées. Preuve pour Belgrade que l'idéologie de la haine est omniprésente chez les Kosovars albanais. Un coup de raquette pour écrire l'histoire. Le duel hier sur le gazon de Wimbledon laisse une empreinte indélébile dans le tennis mondial. Deux monstres sacrés s'affrontent. Il y a l'aérien Roger Federer et la machine Novak Djokovic. 5-7 en 5 heures pour finir par un super tie-break à 12 jeux partout du jamais vu. Le Suisse gâche 2 balles de match. En face, le Serbe est indestructible. Novak Djokovic emporte le gros morceau, son 16e titre en grand chelem, et laisse un public à bout de souffle. Jean-Pierre Blimaud est l'envoyé spécial de France Inter à Wimbledon.
12 jeux partout, dernier set, tie-break. L'arbitre argentin prend bien son temps pour prononcer cette phrase inédite dans une finale à Wimbledon. Novak Djokovic en profite pour faire la différence dans un moment très particulier, même pour le numéro 1 mondial.
C'est un peu étrange de jouer ce tie-break à 12 partout.
Dans les tribunes, le public a largement soutenu Roger Federer. Mais avant d'être supporter, les londoniens sont aussi des connaisseurs, comme Sue, qui est venue des environs de Londres.
C'était très prenant, absolument incroyable. Je n'avais jamais assisté à une telle finale. C'était merveilleux. J'étais plutôt pour Roger Federer, mais quand Djokovic a gagné, j'ai simplement profité de ce moment historique.
Après 4h55 d'effort, Roger Federer, perdant magnifique, fait même de l'humour devant les trophées.
I will try to forget.
Comment essayer d'oublier ? Impossible en effet. Wimbledon, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Et là, c'est ce qu'on appelle bien gérer sa place de leader. Le Français Julien Alaphilippe a vécu une 9e étape du Tour de France tranquille hier et a vous-même se sentir dans la forme de sa vie. En jaune, donc, pour le 14 juillet, le Français est resté bien au chaud au cœur du peloton entre Saint-Étienne et Brioude. Aujourd'hui, 217 km entre Saint-Flour dans le Cantal et Albi dans le Tarn, un bonheur pour les sprinteurs. Ensuite, ce sera repos avant d'attaquer les Pyrénées. Enfin, Frédéric, connaissez-vous le nager-couler ?
Non, c'est quoi ? C'est nager comme un fer à repasser ?
Ça pourrait. Mais vous avez tort, hein, il paraît qu'on avance très vite comme ça dans l'eau avec cette méthode. Encore faut-il avoir quatre pattes et un groin, ce qui n'est pas notre cas.
Non.
Car oui, les sangliers aussi se baignent et ce qu'on ignore souvent, c'est qu'ils nagent très très vite. Chassés sur le littoral atlantique, la bête part à la conquête de nouveaux territoires, jusque dans les marais bretons ou encore sur l'île de Noirmoutier. C'est un chasseur, Jean-Michel Lédin, qui nous fait la leçon de natation du sanglier au micro de France Bleu Loire-Océan.
Le sanglier est le meilleur nageur de tous les mammifères terrestres. Il nage coulé, tout le corps coulé. Les quatre pattes vont de l'avant et il n'y a que le nez qui dépasse pour respirer. Cet effet de nager coulé fait qu'il nage très très vite. Et les aléas après de la chasse, de la recherche de nourriture, de certaines choses, le déplacent sur le territoire. Et puis il peut être amené à partir sur l'île de Noirmoutier. Et quand il est rendu à Noirmoutier, si d'origine il est né vers Pornic là-bas ou qu'il considère qu'il a envie d'y retourner, ben plutôt que de refaire tout le tour inverse par la terre, il va traverser les 15-20 km de mer entre Noirmoutier et Pornic. C'est arrivé que des morins qui étaient à la pêche en pleine nuit, puis tout d'un coup qui apercevaient des choses bizarres, du clapotis, pensant plutôt à une matte de poissons, se rendent compte que c'était des sangliers. Ils traversent carrément en ligne droite et ils remontent après de l'autre côté.
Mais voilà, de quoi tomber nez à truffe avec un touriste sur la plage. Il paraît que ça arrive tous les ans, ça peut pimenter un peu les vacances.
Ouais, ce qui est pas mal, c'est quand le pêcheur va pêcher un sanglier à la ligne.
Donc c'est le sanglier qui pêche le pêcheur, peut-être.
Merci Hélène Roussel, c'était le journal sur France Inter.